Et oui, c'est bien la bande originale. Ah, comme j'aime le samedi. Et pourtant, il n'y a pas Nagui. C'est moi, Daniel Morin, qui vous fait revivre durant cette heure le meilleur de la semaine. Une semaine d'exception. Au sommaire, Cadmerade, Marina Carrère d'Ancos, David et Stéphane Fuenquinos, Audrey Dana, Monsieur Eddie Mitchell et bien sûr la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Quand je pense à vous, Cadmerade, je pense à ça, écoutez. Je vous l'avais reconnu. C'est le générique de Vivement Dimanche.
Ah oui, oh là, ouais,
oh là, d'accord, ok.
Oh merde.
Une émission à laquelle vous êtes souvent invité.
Pas cette fois.
Pas cette fois.
Pas pour
alors
ce
on va
film, non.
Passer un petit message.
Non, mais c'est pas... non, tout va bien. Alors là, oula, tout va bien. Pourquoi?
Et en fait, quand je pense à ce générique, je pense à votre papa.
Ah bon?
Ben ouais, parce que vous racontiez dans une interview
le
qu'à,
fils
chaque...
De Michel Drucker.
Qu'à chaque fois, c'est drôle.
Tiens, c'est énorme. On prend ça maintenant, c'est tout.
Cadmerade Drucker. Oh merde, je savais pas.
Ouais. Je disais, il y a un truc dans le visage.
Vous racontez en fait que votre père, quand vous passez à la télévision,
oui.
Encore aujourd'hui, que ce soit dans Vivement Dimanche ou dans le JT, il prend la télé en photo.
Ouais, oui.
C'est génial.
Ben oui.
Et il la met en fond d'écran sur son ordinateur.
Ouais, ouais, souvent, ouais, ouais. D'ailleurs, sur son écran, il y a une photo qu'on avait faite chez Drucker, parce que j'ai fait un spécial Drucker, comme la consécration, vous voyez ce que je veux dire.
Bah oui.
L'aboutissement d'une carrière.
Toute ma famille était invitée. Mes parents, ma mère, tout ça. Ouais. J'avais même chanté une chanson pour ma mère, une chanson d'Arnaud qui s'appelait « Dans les yeux de ma mère ».
Ah ouais, formidable.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui.
Et il continue encore à vous suivre, toutes les interviews.
Bah, tout. Mais par contre, il me laisse de moins en moins de messages pour me dire « c'était bien, t'étais pas bien
».
Tout ça. Par contre, ils se sont habitués, en fait.
Ah ouais, c'est ça.
C'est terrible, hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que, à l'inverse, il s'inquiète, justement, que vous ne fassiez pas Michel Drucker pour la promo
ah
de
ouais,
la
oui, ah ouais, il va dire, comment ça se fait que t'es pas chez Michel?
Et qu'est-ce qu'il, j'imagine que c'est toujours un peu irréel, pour vous, pour eux, de se dire, cette fierté parentale, là, c'est quelque chose qui...
C'est quelque chose, oui. Bah, et mes parents sont très pudiques, hein, voilà. Ouais. Donc.
Et vous aussi, je crois.
Et moi aussi, donc voilà. Donc c'est pas évident de s'exprimer sur ce terrain-là. Je sais pas vraiment ce qu'ils pensent de tout ça. Moi, j'essaie d'être le plus.
C'est important
simple.
De les rendre fiers, en fait.
Oui, bah oui. Et en même temps, il faut qu'ils continuent dans leur vie à eux. Puis parce que moi, à chaque fois que je viens les voir, mon père il me dit toujours tiens, il y a le maire qui vient. J'ai pris prendre le café pour lui dire bonjour. Il y a le voisin qui voudrait t'amener quelque chose.
Bah, donc, c'est la preuve de sa fierté. Tout
oui,
ça.
Oui, mais l'autre fois, je l'ai engueulé. Je dis papa, je suis venu te voir. C'était son anniversaire. Il avait fait un couscous. Excusez-moi.
Ah ouais.
Avec ma maman et j'ai dit non, personne. Je suis venu te voir toi. Je veux pas voir le maire du village. Quoi. Enfin du village. De la ville.
De la ville.
Parce que j'ai dit du village. Mais ça, j'aime bien en même temps.
C'est quand même Lyon.
Le village de Lyon.
Voilà. Faites gaffe, il va finir par inviter Drucker.
Non, mais c'est toujours un peu. De toute façon, avec la famille, c'est toujours un peu curieux parce que les pauvres, tout le monde les pense qu'ils sont très très riches, par exemple aussi, vous voyez, ce genre de choses.
C'est vrai.
Il
n'y
a que moi qui suis riche dans la famille, en fait. Non, mais vous voyez.
Donc il y a les voisins qui viennent taper. Quoi.
Voilà, ils viennent un peu. Il y a même un jour un sosie qui est venu voir mes parents. Moi, j'ai un sosie qui est incroyable. J'aime pas du tout les sosies, mais il est venu un jour taper chez mes parents pour dire bonjour, je suis le sosie de votre fils, des trucs comme ça. Ouais.
Non, mais c'est. Ça, c'est gênant, ça.
C'est un peu gênant,
ouais. Ouais, c'est gênant.
Mais bon, ça fait partie.
Et quel est votre plus beau souvenir, je sais pas, votre première télé, leur première réaction qui vous a vraiment. Je pense qu'inconsciemment, on se dit aussi, on veut continuer à les rendre fiers, on veut toujours. Toujours les rendre heureux tant qu'ils sont là.
Ah, ça, c'est sûr. De toute façon, tant qu'ils seront là et qu'on sera là avec eux, on est plusieurs, hein, frères et sœurs, on fera en sorte qu'ils soient bien jusqu'au bout, quoi. Mais bon, on ne parlera jamais de ça, évidemment, surtout pas, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, ouais.
Non, il y a un moment qui a été assez incroyable. Et la première fois qu'ils ont pris la télé en photo, c'est quand j'avais fait le préambule des droits de l'homme au 14 juillet. Ouais, je m'étais retrouvé tout seul. Ouais. Oh là là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là, moi?
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Salut Nagui, salut la bande de grippés du bulbe. Dis donc, j'ai pas l'impression que les vacances vous aient spécialement réussi, question aération du cerveau. Hein. Surtout, c'est fou, que vous avez tous l'air enchantés de me revoir. C'est vrai que je suis que le cousin de Dominique Bessner, l'ex-coach des stars. Bien sûr, si, je sais, si j'avais ces relations, j'aurais
droit... Vous ne pouvez pas dire agence, vas-y, coach.
Agence, c'est difficile aussi à dire. Hein. Enfin, moi, je me comprends de toute façon. Hein. Si j'avais ces relations, genre Adora Bouchalamalek ou Cirage de Godache. Mais je ne suis que l'orthophoniste du show. Bon, c'est pas tout. Nagui, vous m'avez demandé donc pourquoi nous recevons Marina Carré-Bancoche. Alors, bien sûr, vous imaginez certainement que je vais surenchérir sur vos félicitations, sur les éloges dont vous l'avez enchanché dans votre laïus initial. Bien sûr, et ça, je peux le dire parce que je l'ai lu sans pouvoir le lâcher une seconde, comme Albert Algou, mon ami, tout ça.
J'ai pas pu lâcher votre roman, Marina. D'ailleurs.
Oui, bon, oh, beaucoup. C'est un type... Une femme entre deux mondes, entre son passé qui ressurgit et le présent angoissant, entre la prison et l'introspection, c'est vraiment sans sas. Quel suspense. On pourrait donc supposer que Nagui vous a invité pour en causer. En fait, je suis désolé de te voir, Marina, mais si Nagui vous a invité, c'est pas en tant que romancière, c'est en tant que médecin, tout bib. Ce matin, en entrant dans le bureau, une fois de plus, il s'est ressurgi à une bille, rédacteur-chef. Je me sens pas bien avec une bille, appelle un médecin. Tout de suite, maître. J'appelle Michel Chimès. Oh non, pas ce charlatan. Comme animateur télé, mais ok, non. Il assure, mais comme toubib, c'est hors de question. La dernière fois,
pour un panariche,
il m'a prescrit des suppôts à l'eucalyptus. Voilà, j'ai fait une allergie, j'ai failli en crever. Alors, appelle plutôt Marina Carrère-Lancoche. Elle, au moins, elle a un diagnostic plus que ça. Fine mouche, comme vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Nagui de quel mal il souffrait. Sous le chaud du secret, il m'a dit « J'ai chopé la taratatite. » Une otite, mais non, Brutti, Jando, la taratatite, une sorte de toc verbal qui consiste, dès qu'une caméra est fixée sur moi, à crier toutes les 30 secondes de façon obsessionnelle « Faites du bruit !» Bref, Marina, je ne sais pas si l'échographiste que vous êtes peut faire quelque chose pour guérir Nagui, mais l'orthophoniste que je suis va vous demander de lui faire répéter de plus en plus vite la formule qui suit, qui fait partie du traitement de la taratatite.
6 chaises sèches, 12 douches douces.
Allez-y, Nagui, vous répétez.
Montrez-lui
la feuille.
D'accord.
Allez, okay. Nagui.
6 chaises sèches, 12 douches souches. Ah non. Bon. 6 chaises plus sèches, vite. 12 douches douces.
Bon, merci. Bonne émission. Merci.
Donc on ne parle pas de moi. Non, je ne parle pas de mon enfance, honnêtement. Mais non,
vous en avez déjà parlé de votre enfance.
Oui, mais c'est bien.
Vous avez déjà parlé de votre enfance. Oui. Hein, femme blessée, il y avait, c'était pas naïf si vous parliez de cette jeune femme brûlée. Et
oui, mais c'est pas mon enfance, ça, c'est mes années de jeune adulte.
Voilà. Et c'était votre sœur d'ailleurs qui vous avait aidé à en parler ou qui l'avait évoqué.
Absolument, oui. Non, mais c'est vrai que c'était. Non, c'est que j'avais
pas. Ça vous dérange d'en parler aujourd'hui? Paradoxalement, parce que
il aime bien mettre mal à l'aise.
Je pose la question pour respecter justement qu'elle souhaite ou pas en parler, c'est vrai que je parlais
d'une femme brûlée et que j'ai été brûlée quand j'étais jeune adulte, quand j'ai eu mon accident de voiture. Mais en fait, je me suis pas rendu compte en écrivant une femme blessée que tous les souvenirs que je racontais de la brûlure, des grèves, des bruits, des odeurs, de tout ça, en fait, je l'avais vécu.
Ceux de l'accident que vous avez eu, c'était votre papa qui conduisait, vous étiez avec votre sœur, vous étiez à la place entre guillemets du mort, vous avez presque eu un réflexe qui était de vous endormir mais en tournant le visage par rapport à la vitre en disant on sait jamais s'il y a un accident comme ça, j'aurais pas la vitre, c'est totalement dingue. Et ce qui est totalement dingue, c'est qu'elle avait déjà des cours de médecine très avancés et que vous aviez senti votre ventre se durcir et que vous saviez que vous faisiez une hémorragie interne. Vous étiez presque en train de faire un diagnostic sur vous-même avant de tomber dans le coma.
Ah, ça c'est sûr. Et puis il y avait aussi ma thèse de médecine dans la voiture qui a disparu au passage dans l'accident. Ça c'était moins grave.
Si je me permets de rappeler, c'est que je ne pense pas que tout le monde est présent cet épisode douloureux de votre vie et que vous êtes toujours dans la blessure. Mais
effectivement, la brûlure, c'est ma sœur qui m'a dit, quand elle a lu le livre, elle m'a dit « Mais est-ce que tu te souviens quand même que tu as été brûlée ?» Et j'ai après coup réalisé que tout ce que je racontais de ces sensations, je les avais vécues, mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant, ce qui est quand même... l'inconscient est quand même un truc intéressant. Et en l'occurrence, pour répondre à votre question sur l'enfance, je pense qu'on a tous certaines choses de l'enfance, mais qui pour la plupart heureusement ne sont pas graves, et que voilà, malheureusement il y a des gens qui ont vécu des choses très graves dans leur enfance, et que c'est ces personnes-là qui sont les plus effectivement blessées, et c'est celles-là moi qui m'intéresse, parce que c'est ces fêlures-là et ces blessures-là qui m'intéressent.
Au-delà de cette formidable histoire entre ces deux femmes, chacune dans leur monde, mais aussi de cette femme entre deux mondes, est-ce que c'est pas une manière de pousser le lecteur à aussi à s'accepter, à accepter le regard des autres et à finalement ne pas se cacher une part de sa vraie vie ou de sa vraie personnalité.
C'est surtout une volonté de dire aux gens que si voilà, s'ils sont mal, s'ils se sentent pas dans leur vie, s'ils sont en souffrance, il faut aller chercher pourquoi. Parce que la vie peut être fantastique et qu'il faut pas passer à côté de sa vie parce qu'on a été blessé, notamment dans son enfance.
Vous l'avez fait ce travail individuellement, et là je parle pas à l'auteur, je fais pas de parallèle avec le personnage,
tu fais un travail.
Ouais.
Il va falloir le finir. Tout commençait comme ça.
Merci.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Dans la bande originale, on aime aussi la musique et le live avec Baxter Dury qui nous a offert en exclu mondial sa version de The Eye of the Tiger de Survivor, la BO de Rocky.
Now I'm back on my feet, just a man with will to survive. So many times it happens too fast, you trade your passion for glory. Don't lose your grip, the dreams of the past, you must just fight to keep them alive.
It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising challenge of our rival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger.
Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the streets for the kill with the skill to survive. Guts, I got the glory, went the distance, now I'm gonna stop, just a man and his will to survive.
Eye of the Tiger, version Baxter Dury. Rien à dire. Ça sonne bien, mais ça reste bien moins que notre rousse incendiaire, la très colorée Alison Wheeler.
Merci, bonjour à tous. Bon, je vais pas super bien, je sais pas. C'est pas la dinguerie, Nagui. Je sais pas, chaque année, au mois de novembre, je suis pas au top. J'ai les chaussettes dans le moral, j'aime pas cette saison, je comprends rien à l'heure d'hiver, j'ai déjà bouffé tout mon calendrier de l'avant. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très sérieux. Un sujet qui nous touche tous et toutes et qui n'est pas Harvey Weinstein. Sortez vos mouchoirs, cette histoire est émouvante. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Taratata. Ok. Je me baladais, port de Champéret. J'avais pas de manteau sur moi, c'est vrai. J'aurais dû méfier de cet inconnu qui s'est approché, m'a éternué dessus. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai senti ma gorge qui me grattait. Je crois que j'ai attrapé un truc bisquide. J'ai la voix de Garou et la gueule de Régine. Putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé. Celui qui vous embrume et vous prend tout le dé. Oh, merci. Je suis abstinente, je peux plus respirer. Mon mec me parle de cul, moi je parle du nez. Je me sens si faible et si sale. J'aimerais retrouver ma virginité nasale. J'ai perdu tout sexe appeal. Avec le Vic sous le nez, on dirait Hitler en chlorophylle. Comment mon corps produit-il autant de mucus?
Oh,
Hidalgo, c'est ta faute. Les bouchons d'imbécidus, putain de rhume. Un vrai rhume d'enculé. France Inter, je prends des médocs vénères. Ça me donne des Je suis addict, j'sniffe des suppos à la menthe. Je suis comme dans un Virginie dépend. J'ai plus de force ni de réflexe. Je perds le contrôle en mode Verdon Fervex. Oh, c'est le putain de rhume. Je crois que je suis décédée. Merci. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là pour moi ces derniers jours. Dolly Rhume, Nurofen, Nurofen Plage, Doctissimo, la filmographie de Haneke, le laboratoire Boiron, le L52, Philippe au généraliste. Je t'aime. Putain de rhume, putain de rhume. France Inter.
Génial.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Mon frère joue le professeur de yoga.
Mon frère joue le pianiste.
Le pianiste. Ouais,
mon frère, ça a été des mois de casting. On avait besoin d'un professeur de yoga et on n'a pas trouvé. Et puis il s'est dit, voilà, c'est moi. Ça fait des mois qu'il espérait le faire.
Mais ça lui va très bien.
Il est formidable.
Ça lui va très bien. Il est crédible.
Mais on espère que le film marche parce que sinon il va redevenir professeur de yoga.
Allez voir le film, sinon je suis obligé de refaire prof de yoga. Et c'est pas possible.
Et vous jouez du piano?
Debout. Oui. Ouais, c'était mon rêve.
On n'a pas osé. Ça vient pas de
Stéphane.
C'est pas possible.
Merde, j'ai perdu ma place de chroniqueur.
Ça, c'est pas possible.
T'as dit quoi?
Il a dit, vous jouez, quand je dis vous jouez piano, il a rajouté debout. Voilà.
Très drôle. Fan des années 80. On voit qui a écrit les vannes du film.
Alors, justement, ne vous fiez pas aux vannes faites en direct. Ouais. Les vannes du film sont bien mieux écrites.
Mais elles ont été
réfléchies plus de temps que ça.
On a changé de langue.
Vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a dit la venue de David et Stéphane Fuenquinos.
Oui, et David Leïla. Et Stéphane, quand je pense à vous, je pense à votre héroïne, Karine Viard, qui ne joue peut-être pas dans Jalouse un véritable rôle de composition.
Non, t'as pas le droit. Elle n'est pas là. C'est drôle si elle était là, mais là, t'as pas le droit.
Drôle aussi
qu'elle vient
parce
d'envoyer
que...
un SMS.
Mais oui, mais vous allez voir, j'aime bien son petit côté un peu vachard dans la blague. Et là, justement, c'était à ce micro, avec nous, il était question
Grand
de
moment.
Marion Cotillard et de Blondie.
Peut-être est-elle très poilue, Marion Cotillard, on n'en sait rien.
Je rappelle que c'est une journée à thème pour Karine Viard parce qu'elle a déclaré.
Pitié. Elle a une chatte de 74 ans, je pense.
Vous avez raconté, c'était avec vous.
C'est énorme.
Mais alors, non, elle n'a pas compris le principe du rouge en radio, que le micro était ouvert.
C'est peut-être pas le meilleur mot, mais elle ne savait peut-être pas que le micro était ouvert.
Non, elle ne savait pas, elle n'avait pas compris que quand c'était rouge au milieu, il fallait mieux faire attention. En gros, Karine Viard, bah voilà, ça ne pouvait être que votre Nathalie. Ça tombe sous le sens
carrément,
maintenant.
Bah oui, c'est exactement.
Non, mais en fait, elle jouait pendant votre émission. Elle n'est pas du tout comme ça.
Elle est heureusement comme ça. C'est-à-dire qu'elle
est. Et d'ailleurs, quand elle a lu le scénario, elle nous a tout de suite dit c'est moi, je suis jalouse. Elle nous a appelé et elle nous a dit mais même aller encore plus loin.
Elle
voilà,
nous a
c'est ça
poussé.
Qui est excitant.
Elle nous a même poussé. Parce
mais vous avez écrit pour elle.
C'est écrit pour elle, mais on a toujours peur qu'une actrice ne puisse ne pas avoir envie d'interpréter un tel rôle.
Et puis c'est angoissant, comme elle disait.
Pour l'image, pour... voilà,
si jamais quand quelqu'un vous dit on a écrit pour vous, si on n'aime pas, c'est affreux, on descend d'un immeuble. Et si on aime, on se sent d'être à la hauteur. Mais là, il y avait une vraie rencontre. Il y a eu une vraie rencontre.
Mais qu'est-ce qui vous a fait dire qu'elle pouvait accepter ce rôle ?
Le pognon.
Ouais, d'acheter une maison.
Non, mais ça, faut pas confondre avec vous, Daniel Morin.
C'est vrai, j'ai tendance à mélanger.
Alors, elle a dit que c'était un rôle hyper excitant pour elle, parce qu'il y a vraiment tout à jouer.
Et je me demandais, est-ce que la jalousie, thématique du film, vous connaissiez ça entre frères?
On se déteste.
C'est très dur d'être à côté l'un de l'autre.
Non, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a il peut y avoir une petite forme de jalousie ou
sachant
pas
que l'un des deux a du talent, oui, c'est sûr que c'est ça.
Vous serez à la fin de l'émission.
Loki met une bulle sur le feu.
Très bonne vanne.
Nagui essaie de faire comme nos techniciens qui essayent toujours de nous diviser ou voilà.
Alors, non, mais ce qui est génial avec Stéphane, c'est qu'on est très complémentaires. Donc, moi, je suis très admiratif voilà, de tout ce qu'il peut faire et ce qu'il apporte. Et puis, j'espère que c'est réciproque.
Est-ce que vous avez gardé
mon petit frère. Je suis tellement ému. Vous imaginez mon petit frère qui est pris Renaudot, qui est Goncourt des lycéens. Ça fait quelque chose. Et là, je le vois réalisateur. Parce que quand on est sur un plateau, il est et on travaille énormément en amont.
J'ai l'impression qu'avec vous, frère rime avec fier. Mais est-ce que vous avez gardé la même manière de travailler que sur la délicatesse? C'est-à-dire dans la répartition du qui fait quoi? Tout ne se fait pas forcément à deux.
Oui,
que
mais après, avec un peu plus, je pense, de confort d'expérience, et d'expérience.
De plaisir.
Alors,
aussi.
Concrètement,
concrètement,
vous
je fais tout, il fait rien. Voilà, c'est tout. Non, non.
L'écriture.
Concrètement, c'est un film, c'est 2 ans, même plus, de préparation. Donc, vraiment, on a le temps de l'écriture, de monter
le premier draft.
Le film.
C'est
on
vous
fait des allers-retours, voilà. On
parle
beaucoup,
on s'envoie
après,
les scènes.
On a le temps pendant ces 2 années d'avoir une véritable vision commune. Donc, après, quand on est sur le tournage, évidemment, on sait exactement où on veut aller.
Je sais pas toi, Leïla, mais j'ai l'impression que c'est David qui a écrit et qui la propose à Stéphane et Stéphane lui renvoie des suggestions. Et vous voulez pas le formuler comme ça?
Mais non, parce que
je préférais dire c'est écrit à 4 mains.
Bah, parce que ouais, c'est l'idée, c'est que malgré tout, au bout d'un moment, on ne sait plus qui injecte quoi.
J'entends,
et voilà,
j'entends,
voilà. Parce que c'est des méthodes qui sont pas.
C'est le cas, c'est vraiment un mélange de nos deux sensibilités.
Ouais, voilà.
Et alors sur le plateau, comment la direction
Franchement, on prend toutes les décisions à deux, mais Stéphane, vous l'avez rappelé, c'est un grand directeur de casting, donc c'est vrai qu'il est beaucoup avec les acteurs. Moi, j'ai beaucoup en charge la mise en scène, mais toutes les décisions, voilà, qu'on regarde les scènes, le combo, on se met d'accord, il va voir les acteurs, les plans, je lui propose, voilà, ce qu'on imagine. Donc finalement, voilà.
Le combo, c'est l'écran de contrôle sur lequel on voit l'image, parce que maintenant, avec le numérique, on voit immédiatement ce qui est filmé. Il n'y a plus de besoin de développer des pellicules.
Exactement. Mais notre dernier film remonte à 6 ans. Donc, on a vraiment pris le temps de travailler, d'essayer de convaincre toutes les personnes, les acteurs avec qui on avait vraiment envie de travailler. Donc, ça a été aussi un grand plaisir.
Et au-delà de l'expérience, entre ces deux films, qu'est-ce qui a été changé aussi dans votre rapport aux équipes, dans le travail avec les comédiens? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, le prochain film, on s'y prendra un petit peu différemment?
On espère avoir progressé. D'ailleurs, la presse est très très bonne. C'est vrai que les gens soulignent ça. On a vraiment mis du temps. C'est évident qu'un premier film, c'est aussi un terrain d'expérimentation.
Et il y avait aussi l'idée de l'adaptation. Forcément, il y avait matière à comparaison, alors que là, c'est un sujet original. Ouais. C'est un côté un peu vierge comme ça. Donc c'est vrai que oui, ça nous a permis de s'améliorer aussi.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Ah, ça fait bizarre d'entendre ça.
Alors, ça fait quoi d'écouter Joseph Arthur, justement?
Ça me vibre partout, en fait, ouais. C'est vraiment un très, 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 très bon ami à moi, un artiste exceptionnel.
Que vous avez découvert à New York?
Que j'ai découvert à New York, ouais.
Vous y faisiez quoi, là-bas? De la danse?
J'ai créé ma compagnie de théâtre là-bas, mais moi, je faisais presque rien en tant qu'artiste, mais je dirigeais des gens, parce que quand je suis arrivée à New York, je me disais... Ils avaient tellement de talent que j'avais pas du tout ma place là, moi, en fait. Ils savent tous chanter, tous danser, tous tout, quoi.
Et là, pardon, vous avez 18 ans, vous partez pour New York après la lettre avec votre papa.
C'est voilà, je voilà, exactement.
New York, comme ça, vous dites. Je
non,
pars,
pas
je vais
du
loin.
Tout. J'ai ma grande sœur qui est là-bas et je suis censée.
Sœur Lumière.
Voilà, grande sœur Lumière. Je suis censée partir là-bas 2 mois, juste un été, pour gagner un peu d'argent et améliorer mon anglais. Et en fait, j'ai tout de suite su que je ne pourrais pas repartir dans l'autre sens. Et ce qui était fou, c'est que depuis l'âge de 8 ans, tout était ciblé pour devenir actrice. Je venais de rentrer dans une grande école de théâtre. Je venais d'être engagée dans ma première pièce de théâtre et j'ai tout planté pour rester à New York. Et j'ai fait mon premier enfant là-bas. Voilà.
Très rapidement.
Très jeune, ouais.
Très, très jeune.
Ouais, à 20 ans.
Avec le recul.
Avec le père. Hein.
Pardon ?
Non, je croyais que vous alliez dire avec le père. Oui, oui. Non.
avec le recul, c'était précipité, c'était.
Non, c'est exactement là où je devais être, en fait. Je me suis écoutée et ça semblait fou. Mais vous voyez, mon fils, il est arrivé, j'avais 20 ans. Et j'ai prévenu toute ma famille avant de le concevoir. J'ai prévenu toute ma famille. Je dis, je vais faire un bébé.
Vous avez envoyé un faire-part avant.
Ouais, c'est vrai. J'ai fait ça. Et tout pouvait, la décision de rester, passer 2 ans là-bas, faire un enfant, tout ça pouvait sembler fou. Et pourtant, c'est constitutif de toute mon existence aujourd'hui.
En 2007, vous écoutiez. Rufus Wainwright.
Ouais.
Et là, vous êtes où? En écoutant ça, vous êtes dans une piole.
Je suis dans une piole d'hôtel en train de tourner le film de Claude Lelouch. Je suis dans les montagnes et je tourne mon premier film.
Premier rôle. Roman de Gare avec Fanny Ardant et Dominique Pinon.
Exactement, avec voilà, une rencontre qui a été quand même explosive par mon improvisation. Voilà, mes essais avec Claude Lelouch pour Roman de Gare. Je savais que c'est quelqu'un qui aimait sortir des sentiers battus. Et j'étais avec Thierry Frémaux. Fait une petite confusion. Thierry Frémaux, l'acteur, ouais. Donc. Et lui, il revenait toujours au texte de base, et moi, j'en sortais.
Il est chiant pour ça. Le texte.
Bah, en tout cas, avec Claude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut fonctionner comme ça, super, avec d'autres. Et donc, je le faisais chier, le pauvre, aux essais. Je lui dis, mais tu m'écoutes pas, en fait, quand je te parle, c'est ça? Et Claude riait. Et en fait, au sortir de ses essais, il m'a dit, je cherchais un couple. Et ben, en fait, le couple, je vais le créer autour de toi parce que tu seras l'actrice de mon prochain film.
Quelle grande actrice a-t-il dit, Claude Lelouch?
Ah ouais, et Claude, ouais.
En parlant de vous, il a rajouté « mais moche ».
Ouais, c'est vrai, vous avez bien fait votre boulot.
Mais moche.
Il est venu me voir au théâtre, en fait. Il est venu me voir au théâtre dans une pièce que je faisais, où on était 2 sur scène. Et dans ce spectacle, j'étais vraiment dans tous mes états, et je pleurais, etc. Et donc, je finissais en vrac, quoi. Je finissais en vrac. Et donc, il a dit à l'auteur du spectacle, j'ai trouvé que c'était une très grande actrice, mais qu'est-ce qu'elle est moche, voilà.
On s'arrête là-dessus, sans aucune
importance, surtout que ça l'a pas empêché de me faire travailler.
Et plusieurs fois.
On sait qu'il a très mauvaise vue en
plus. Trois films
avec Claude Lelouch. En 2014, Imani est là.
C'est puissant la musique quand même, hein, parce que ça vous fait voyager dans le temps.
Là, vous devez avoir plein d'images qui débarquent, que ce soit le flash mob au Trocadéro avec cette musique, le clip de cette chanson.
Mais c'est surtout l'écriture de Sous les jupes des filles, voilà. En fait. Hein. Je suis en pleine écriture de Sous les jupes des filles et je suis en rupture sentimentale vraiment très très violente. À un moment où je suis hyper triste. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les filles que j'ai abordées pour faire ce film, elles étaient toutes célibataires, sauf Sylvie Testu. On était sur les 11 filles, on était 10 célibataires. Et à la sortie
Isabelle
du film...
Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, ouais. Laetitia Casta...
Ouais, ouais.
Il y a eu des belles soirées.
Audrey Fleurot...
On était toutes célibataires. Et quand le film est sorti, on était toutes maquées. C'était incroyable. C'est un an plus tard. Comme si cette chaîne de nanas, en fait, qui décide de parler honnêtement de qui elles sont, nous avait fait du bien.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Hop, on arrête tout, place à la musique, avec deux petits nouveaux, deux petits jeunes. Eddie Mitchell, Serge Gainsbourg, Vieille Canaille.
Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
Ah oui.
Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne peux rien pour attendre.
Je saurais bien te descendre.
Mon Dieu. Je suis content d'avoir ta peau, vieux chameau.
Ah bon, mais attends-moi, tu vois. Moi, je t'ai reçu à bras ouverts, vieux canaille.
Tu sais, je sais.
Il y avait toujours ton couvert, vieux canaille.
Oui.
T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as sifflé tout mon whisky.
Viens mon lit. Puis je t'ai présenté une femme, vieille canaille.
Un canon.
Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille.
C'est vrai.
Fumier. Tu as fait du baratin, tu l'as embrassé dans les coins.
Et ailleurs.
Dès que j'avais tourné le dos. Et le chameau.
Je suis parti avec elle, vieux canard.
Ouais, je sais.
Oui, je suis parti avec elle, vieux canard. En emportant la vaisselle, le sud-lit en rotelle. Tes cassettes au magnéto, vieux chameau.
Fumier, ordure, etc. Ah, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille.
Ah ah.
Ouais. J'ai sorti mon fusil, et canaille.
Aïe, aïe, aïe.
Et quand je te tiendrai au bout,
au bout,
je rigolerai bon coup.
Pas moi.
Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit.
Mais on te mettra dans une tombe,
ah bon,
vieille canaille, vieille,
ah bon,
vieille, vieille canaille.
Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille.
Ça m'étonne pas. À coup de petite verre de vie,
la plus belle cuite de ma vie
sera pour tes funérailles, vieille canaille.
Vieille canaille.
Vous êtes bien, mais vraiment, vraiment bien sur Inter, et c'était Les Vieilles Canailles de Serge Gainsbourg et Eddie Mitchell. Et nous aussi, on en a une bien belle de vieille canaille, Tanguy Pastureau.
En regardant N'oubliez pas les paroles, j'ai pleuré puisque 1. J'ai réalisé que sans moi vous continuiez à vivre. 2. Thierry, un candidat au moment de choisir entre Amsterdam de Jacques Brel et A.O. du groupe Tragédie, a dit écoutez Nagui, je vais prendre Tragédie. C'est le seul groupe qui dans son nom annonçait ce à quoi on allait avoir droit. C'est comme si les Gypsy Kings s'étaient appelés chemise ouverte sur grosse touffe de poils et gourmette. 2 semaines sans vous, longues comme 5 minutes d'interview de François Bayrou et qui ont vu notre monde changer. Avant les vacances, Kevin Spacey était une star à et Tariq Ramadan, un islamologue suisse, c'est-à-dire qu'il lisait le Coran 4 fois moins vite que les autres. Et là, en 15 jours, on réalise qu'à côté, Jean-Luc Lahaye était un obsédé de la gériatrie. Kevin Spacey est accusé d'avoir tripoté des tas de types de 14-15 ans. Hein, à la sortie des collèges, on le voyait avec un tube de Biactol au bout d'une canne à pêche, en train de dire petit, 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 petit.
Non.
Les gonzes, 25 ans plus tard, l'ont balancé, et lui a dit pardon, je me rappelle de rien, c'est con, j'aurais dû entraîner ma mémoire en faisant des mots mêlés. Et au fait, je suis gay. Hein, le truc qui survient au pire moment. À ce niveau d'enfumage, on peut lui envoyer direct un Canadair. Du coup, House of, Cards, la série dans laquelle il joue le rôle du président américain, va peut-être s'arrêter. Danny Masterson, autre star Netflix, est lui accusé de viol. Hein, sa nouvelle série est sur la sellette. Donc avant un mois sur Netflix, il va juste rester Winnie l'ourson. Super, hein, 10€ par mois pour voir un ours en t-shirt trop petit et sans slip se balader devant un porc. Ce qui est une parfaite métaphore. Fort d'Hollywood, hein, parce que leur truc c'est Sodome et Gomorre. Mais comme les mecs sont des artistes, ça passe. Hein, l'affaire Polanski, tu t'appelles Didier Sanchez, t'es boulanger à Mâcon, tu prends 20 ans de tôle et les gens qui partagent ta cellule t'enfoncent tellement de savonnettes que techniquement t'es un placard de salle de bain. Et là, y a pas de fan pour venir regarder tes pains en disant ok, il a ses zones d'ombre, mais quand même, quel artiste tu as vu, hein, sa baguette tradition.
Excusez-moi. Donc, il n'y a pas que les stars de cinéma qui tombent les unes après les autres.
Mais non, Tariq Ramadan, on en a parlé, lui ouais. accusé de viol. Et il y a des témoignages disant que dans les années 80, quand il était prof, il aurait couché avec une élève de 15 ans. Mais qui, une fois adulte, a envie de quelqu'un de 15 ans ? On fait quoi après l'amour ? On parle des Energy Music Awards ? On dit tu trouves pas que Louane, elle est trop trop belle ? Et on se rabe la langue sur l'appareil dentaire de la petite comme un vieil mental ? Non mais seulement Ramadan, c'est une star. Il a son fan club. Et selon qui cette affaire, c'est un complotionniste. Hein, on lit ça sur les réseaux sociaux. Hein, dans leur tête, le boss du CRIF a appelé l'ambassadeur d'Israël, a dit par la barbe de Marek Alter, mon pote, on va éliminer Ramadan, fais témoigner des nanas contre lui, promets-leur en échange un séjour d'un mois au Hilton de la Mer Morte, et tu me tiens au courant, moi, mais aussi Popek, Bob Dylan, Woody Allen, Elisa Tobati et Jean-Luc Azoulay d'AB Productions, hein, le complot. Alors les fans de Ramadan, les Ramadanzouz, ne réalisent même pas que leur gourou qui frime à Oxford et se fait lécher le huc par la gauche à moustache, c'est juste un mec, quoi. Hein, il peut fauter. Donc c'est la fin des idoles. Une par une, elles tombent. Alors bon, on leur trouve toujours des excuses parce qu'on les admire. Hein, Bertrand Cantat, on disait, c'est notre Jim Morrison, il est torturé. Ok, il a tué Marie Trintignant, mais par passion. Mais enfin, mais par passion, achète 30 bouquets de fleurs, loue la Tour Eiffel pour écrire Jacqueline, je t'aime. Écris à Nagui pour lui demander, est-ce que je peux faire une déclaration d'amour à ma femme dans Taratata ? Il répondra, bah non, connard, tu vas aux amours de texte comme tous les losers. Mais il y a autre chose à faire par passion que de taper sur sa compagne. Verlaine a tiré sur un beau par passion. Nabila a planté Thomas au couteau. C'était la même chose que Verlaine, mais sans le cuit. Par passion, parce que les stars, c'est nous qui les faisons monter très haut. Et une fois là-haut, une sur deux pète les plombs et pense que la vie, c'est open bar. Qu'avec du charisme et du brosouf, on peut palucher, pénétrer, frapper n'importe qui, buffer flunch sur l'existence. Donc, à part Jean-Jacques Goldman, qui peut au maximum, après avoir bu une tourtelle, voler un bounty chez Banette, Kadmerad, Nagui, Daniel Mo... Non, c'est pas une star. Bref, à part quelques vedettes qui savent se tenir, plein d'autres vont enfin tomber et ça ne sera que justice.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Faut que je vous raconte, en fait, on a été on était en vacances la semaine dernière, Eddie.
Bien, bravo.
Voilà. Enfin, surtout Nagui. Et voilà, un matin, le réveil sonne très tôt, vers midi. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Bah, je réveille la personne qui partage mon lit, parce que oui, j'ai retrouvé quelqu'un, ou plutôt, la personne m'a retrouvé. Comment vous la décrire ?
Elle était maquillée comme une star de cinéma.
Peur. Sauf que j'ai pas dit quel type de cinéma. Voilà. Et plus vers la fin de l'alphabet. Bref, ce matin-là.
Je réveille mon voisin, je dors comme un nouveau-né.
C'est Daniel Morin que j'héberge. Voilà. D'où le côté un peu froissé, mal repassé de la personne. Parce que voilà, il s'est fait virer par sa femme pour des problèmes qui. Voilà. Horrible. Sa femme l'a retrouvé en barésie avec des talons de 15, une perruque. Bref, oui, mesdames et messieurs, Daniel Morin Straveluche. Bon, ouais. Au-delà de 2 grammes, il veut qu'on l'appelle Daniela et qu'on lui parle en espagnol. Donc là, forcément, je lui ai dit.
Oh,
ah, c'est longtemps.
Forcément.
Du coup, je veux bien t'héberger, t'es dans la merde, ça se fait dépanner. Merci. Les communs, mais.
On fait comme on a dit, tu restes encore 8 jours. Okay.
Et après, on peut encore attendre 8 jours de plus, mais pas plus d'un mois ou deux. D'accord. Et en plus, faut le savoir, Daniela, elle est pas commode au réveil, hein, Madame Échanchon, direct, il me dit.
Tu me prépares le café noir.
Dis donc, je suis pas ta boniche quand même. Direct, il me prend par les sentiments.
Je tire sur bras ouverts, vieux canaille.
Ouais, enfin disons que tu m'as offert l'apéro une fois, moi je t'héberge 2 mois, donc je sais pas si le ratio est très bon. Déjà je t'héberge, je suis vomi sur le tapis, enfin toi tu penses que c'est le tapis en fait, c'était mon chat, hein.
Ouais.
Oh, joli. C'est facile Daniel.
Ouais, je le pense.
Vraiment désolé pour toi.
Pour lui, c'est trop facile ça. Merde, tu fais chier Daniel.
Un peu moins fort, hein, un peu quand même.
Bah oui, t'as pris une murche, t'as mal au crâne, hein. Et je parle fort si je veux, Daniel, hein. Déjà que le commissariat m'a réveillé en pleine nuit pour venir te chercher.
Pour une fois, les flics ont gagné.
Bah oui, mais il y a un moment, quand tu fais de la moto en zigzagant, sans casque, sans gants et sans moto, les flics te repèrent, hein. Mais qu'est-ce que t'aimerais aujourd'hui, Daniela ?
J'aimerais avoir 16 ans.
C'est boulot.
Aujourd'hui.
Ok, mais en truc réalisable. Ça va être compliqué quand même, hein. Je vais pas te cacher. T'as quel âge déjà, Daniela ?
Tout juste d'avoir mes 14 ans.
Ah, c'est marrant, j'aurais dit plus. Enfin, bon, bref. En tout cas, faut le savoir, Daniela, le matin, elle fait la gueule.
J'aime pas les gens qui sont toujours heureux.
Ah mais là franchement, si on doit cohabiter, il faudra vraiment que tu fasses un effort. Hein,
je suis pas pire qu'avant.
C'est pas faux. Et d'ailleurs, si tu peux remplir un peu le frigo au passage, ça m'arrange. Hein,
Solvable à mi-temps.
Ok, d'accord. Le gratteur. En plus, il veut me prendre par les sentiments.
On est tous issus de la même tribu.
Voilà, quand ça t'arrange, évidemment. Hein. Et puis tout d'un coup, je vois l'œil de Daniela changer, son poil se dresser et me susurrer à l'oreille.
Je t'imagine faisant la boue.
Voilà, c'est très gênant, Daniel. Hein. Du coup, j'allume le poste de radio sur France Inter.
Et la radio me vantait un truc débile qui m'en a.
Pas de pause, c'était le best-of de la bande originale. Voilà, et on est dedans. Allez, bonne journée. La semaine prochaine, je vous raconte comment je me suis retrouvé à changer la courroie de distribution de la bagnole d'Albert Algout.
De toute façon, moi, au départ, j'étais pas pour faire ce genre d'album.
Ah
du
bon
tout. Non, c'est une vieille idée de mon ex-PDG d'Universal, Pascal Nègre. Et moi, je disais, oui, mais ça va faire Ramnard, ça va faire je reçois mes amis, je reçois machin. Et je trouvais pas l'idée fantastique. Alors c'est le fait d'avoir écrit une chanson où je les remercie qui m'a convaincu de faire ce genre
très bien, très voilà. Bien. Très bon album qui vous permettra de revisiter encore une fois avec les membres de la tribu d'Eddie Mitchell les titres que vous aimez comme.
Si je bois dans un bar 3 ou 10 verres de trop, quelqu'un tue une bagarre, les gens crient aussitôt c'est un vainqueur.
Avec Johnny ou avec Arnaud.
J'en fais pas des tonnes, mais j'espère surtout que je n'oublie personne.
Ou Kerenan, j'adore aussi cette version du Toujours un coin qui me rappelle.
L'ombre vient, non pas m'entraîne.
Oh, l'on allait danser le soir.
Les deux voix se marient vachement bien, mais souvent, il hein, n'y a pas d'erreur de casting, bravo.
Et c'est renforcé tous mes espoirs, comment pouvoir t'oublier.
À propos d'oublier, tiens, il ne faut pas oublier Julien Clerc.
Celle qui était mon passé, cet amour mort à tout jamais.
Et celui que vous traitez aussi de vieille canaille sur l'album.
Au bas du Lutetia, il a ses habitudes.
Jacques Dutronc.
Le barman connaît bien ses rites, ses attitudes.
Si son rire est joyeux, il prépare à son deux ou un Bloody Mary. Si elle ose dans sa vie.
Incontournable aussi, Christophe.
Je regarde le monde actuel avec sa myopie jamais cruelle. Comme dans
Bobby, le jour se Brigitte, lève, fille du motel.
Pour la fille du motel.
Vous avez bien gentillesse d'interpréter avec elle dans Tarantin.
Un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver.
Elle est bien coiffée, elle part travailler. C'est vraiment pas Noël pour la fille du motel.
La même tribu, l'album s'appelle tout simplement La même tribu, volume 1. Eddie Mitchell, notre invité. On a envie de dire que Eddie, mais pardon, on va être poli. Monsieur Eddie Mitchell, en 1981-82, on va parler cinéma cette fois-ci. Vous chantiez.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox.
Ça sera dans le volume 2, ça aussi.
Exact, ouais.
Avec qui?
J'ai oublié, pardon.
Donc mais ça quelqu'un sera... de super.
Oui, oui, c'est super, mais je suis un peu planté.
Juliette Armanet.
Voilà.
Juliette Armanet. Inhabituée de nos studios également. 80-82, c'est aussi la période de coup de torchon et dernière séance, c'est-à-dire c'est le cinéma qui est votre passion. Vous êtes un comédien absolument formidable, formidable. Je vous l'ai souvent dit, mais on vous aime. Et je sais que là, en plus, vous venez de terminer un tournage. Quel souvenir vous en avez de ce coup de torchon de Tavernier ?
Ah ben, c'est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu Bertrand. C'était à Lyon, là, parce que je recevais une récompense à Lyon. Et donc, j'ai mangé du saucisson, j'ai mangé... voilà, et on s'est remémoré deux, trois trucs... Et notamment des choses formidables. Par exemple, j'ai un doigt cassé que je ne peux à peine bouger. Et c'est grâce à Bertrand, parce que il y avait une petite scène de bagarre avec Noiret, mais vraiment pas méchante. Et il y avait personne pour nous doubler, bien sûr. Et puis Bertrand,
vous avez pas fait une cascade non plus.
Non, mais je dois prendre un coup de poing, je dois lui en mettre un, puis je dois tomber, je suis tombé sur la main, crac, j'ai tordu le doigt, et le doigt est cassé, bon, c'est pas grave.
Mais donc depuis 40 ans.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Oui, parce que comme j'étais obligé d'aller à Saint-Louis, on était à Saint-Louis du Sénégal, à l'hôpital me faire soigner, j'ai préféré me faire mettre un plat parce que j'ai vu des rats passer, des choses comme ça. Je dis, tiens, peut-être pas me faire soigner là.
Les maladies nosocomiales, peut-être oublier. Ouais.
Non, mais je dis simplement que Bertrand, lui, fait, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je veux pas voir ça.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Ah, doux Jésus, j'aime le rire, j'aime la blague, le lol. Allez, cadeau, double ration, avec le Belge dont la Belgique ne veut plus. C'est son grand tour, Guillermo Guiz.
Bonjour les amis.
Salut.
Ça va toi? Alors j'ai beaucoup pensé au suicide pendant cette semaine de vacances.
Ah bon,
l'équipe t'a manqué tant que ça?
Ouais, ouais.
Lol. Et vous allez me dire, non, te suicide pas, tu fais partie de la team maintenant. C'est pas parce que t'as eu un petit passage à vide d'un an dans cette émission que tu as démissionné par mort violente. T'inquiète pas, tu vas finir par réécrire une bonne chronique à l'occasion. Prends un co-auteur ou bêtement du speed. T'as pas le numéro du dealer
non.
de Leila?
Ça va pas.
Pourquoi moi?
Pourquoi? Alors,
moi je lui ai défendu. Ça va sur la drogue.
Exactement. Voilà, c'est complexe. Ce qu'il y a, c'est que l'automne en soi, déjà, ça donne envie de crever dans un puits de pétrole. Mais l'automne loin de chez moi, putain, les gens me font dire oui, attends, je te rappelle que t'as la chance d'être à Paris, quoi. Putain, Paris, le PSG, quoi, s'il te plaît, la ville lumière.
Oui.
La ville lumière, ok, sauf que là on est en novembre, tu vois, la ville lumière c'est jusqu'à 16h30, après c'est le Mordor, hein, comme
c'est
à Düsseldorf. Et puis Paris, très bien, mais moi c'est pas que je vis dans le Marais ou à Pigalle ou à Répu. Hein.
Pourquoi non. tu me regardes?
Moi je vis pas à Répu, non, moi je vis à Coque de Téléphone. Il y a 60 magasins de Coque de Téléphone dans ma ville. Ça. Là j'en suis arrivé qu'on me vole la mienne juste pour pouvoir me faire un copain dans le quartier, quoi. C'est vrai, il y a un petit bar sympa au bas de mon immeuble, hein, les gens sont chouettes et tout, mais là j'ai fait le tour de leurs anecdotes sur la guerre en Tchétchénie. Il est marrant au velours, mais il est marrant en 2 secondes, quoi. Et moi je reviens de Syrie que des lopettes, et moi j'ai perdu 2 doigts dans un kidnapping, et moi je rêve encore de l'odeur du sang, pas vous les gars. Et on a sympathisé et tout, mais bon, je leur dis que je connais pas la guerre, mais que je bosse avec Daniel Morin. Avec niveau hygiène, on est pas loin du charnier. Mais je sens bien qu'ils m'écoutent que d'une oreille, les soldats c'est une caste à part. Pas vrai, maréchal?
Alors, affirmatif.
On est bien d'accord. Non, vraiment, travailler loin de chez soi, déraciner, c'est dur, quoi. J'en parle encore récemment avec Neymar. Qui trouvait que je manquais un peu de caractère, évidemment. Mais bon, évidemment, c'est facile pour Neymar. Il est sociable. Moi, socialement, j'ai une vie de moissonneuse-batteuse. Quoi. Vraiment, ce week-end, après le spectacle, je me dis, allez, soyons fous, je vais aller manger seul au restaurant. Yeah, seul au resto, comme un veuf. Et en même temps, comme un veuf. En même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai peut-être personne à qui parler, mais je suis pas à l'abri d'une bonne cuisson. Hein, ça va, au pire, je fais comme un copain avec le bar de ligne. Yeah. Alors, j'arrive devant le resto et tout, en chemise et tout. Hein. Putain, le videur, il me refuse l'entrée d'un resto. Putain, c'est quoi cette ville? À Bruxelles, t'arrives en chemise dans un resto, tu deviens actionnaire, quoi, vraiment. Et du coup, voilà, j'ai fini seul au McDo de la gare de l'Est à 23h, habillé pour coucher, à manger des cheeseburgers froids, le cheddar, je vous jure, c'était de la bakélite. Franchement, il y avait moyen de jouer aux dames dessus, vraiment. Sur la table du McDo, il y avait des restes de famille qui avaient mangé en 2001. Il restait encore des poils du kiki du petit dernier dans le ketchup séché. C'était glauque, on aurait dit l'historique internet de Nagui, quoi, vraiment.
Salaud.
C'est vrai, les frères Dardenne ont entendu parler de cette histoire, ils veulent faire un documentaire sur ma vie, quoi, vraiment. Ma ville, elle me manque, quoi. Bruxelles, c'est la classe, vraiment, ouais. Critique parce que ça sent la pisse, ok? Mais en attendant, c'est quand même à Bruxelles que le gouvernement catalan s'est installé, quoi, c'est vrai, alors que tout le monde fait un foin de Barcelone, parce que Barcelone ceci, Barcelone c'est ça, mais ils sont tous à Bruxelles, c'est vrai ou pas? Moi j'ai le mal du pays. J'ai plus goût à rien. Tu me mets Penelope Cruz à poil devant moi, je regarde Secret d'Histoire, quoi, vraiment. J'ai plus de libido, je suis à 2 doigts de mettre mon sgeg sur le bon coin, vraiment. J'arrive même plus à me masturber, mon sang il me fait, non, c'est trop triste, moi je me déplace pas dans des conditions pareilles, vraiment, c'est vrai. Sérieux, je me donne 3 semaines pour arrêter ma carrière et rentrer chez moi, vraiment. Et là, les auditeurs d'Inter qui font, mais pourquoi toujours remettre au lendemain? Fonce, Guillermo, fonce. Non, mais c'est vrai, à quoi bon tout ça? Ce qui m'a aidé, c'est que je viens de lire Homo Deus de Yuval Noah Harari, qui est un peu à la joie de vivre, ce que Radiohead est à la joie de chanter. Omar Sy l'a lu, depuis il traîne avec Michel Houellebecq. Dans ce livre, et par ailleurs formidable, Harari écrit: l'univers ne signifie rien. Au cours de notre séjour d'une brièveté infinitésimale sur notre petit grain de planète, nous nous tourmentons, nous pavanons de ci, de là, et puis on n'entend plus parler de nous. Merci Yuval. Ça doit être chouette de passer un réveillon avec toi. Vraiment. C'est quoi encore le numéro de votre dealer, Leïla?
Bonne
émission, les amis.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Vous en voulez encore? Pas de problème. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, les forains ne sont pas contents.
Oui, ça roule mal à Paris.
Quand c'est pas content à forain, ça se voit. Anne Hidalgo ne veut plus du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Les Foras décident de bloquer la circulation en région parisienne. Une info qui, émotionnellement, m'a quelque peu blackboulé. D'un côté, j'étais furieux que le trafic soit perturbé. De l'autre, j'avais ce relent de tendresse pour une population foraine, synonyme pour moi de foire du trône et autres fêtes à neuneux. Et moi, quand je suis blackboulé, ça me donne chaud. Et quand j'ai chaud, j'ai sommeil. Quand j'ai sommeil, je m'allonge. Quand je m'allonge, je m'assoupis. Et quand je m'assoupis, je m'endors. Et quand je m'endors,
je rêve.
Dans mon rêve, j'étais dans ma voiture, en train de rouler tranquille, la clope au bec, un calva dans la main gauche.
Quand d'un seul coup, c'est le mois sans tabac, je te rappelle. Hein.
Rien à foutre. Quand d'un seul coup, un camion me double, me fait une queue de poisson et me bloque le passage. Mais bordel de Dieu, c'est qui ce con qui me bloque la route comme ça? N'ayez pas peur, approchez, venez faire un tour là-bas pour le camion manège, les amis. Le manège, c'est drôle pour les grands, c'est drôle pour les petits. Allez, on y va, on donne ce qu'on veut, c'est pour soutenir le mouvement de colère des forains contre la mairie de Paris. Génial. J'ai fait 4 tours, je me suis amusé comme un fou, puis je suis remonté dans ma voiture. 20 minutes plus tard, je m'éclatais au volant en écoutant chanter Amir. Oh, je dégustais un délicieux Ricard. Oui, j'avais plus de calva, j'avais fini la bouteille. Ah bah Amir, quand t'es pas bourré, c'est naze. Bref, j'étais heureux. Quand d'un seul coup, d'un seul... Merde, c'est quoi encore ce camion à la con?
Oui. Venez, approchez, n'ayez pas peur. Venez dans mon camion goûter mes délicieuses barbes à papa. Il y en a la fraise, il y en a la pomme, il y en a la pastèque, il y en a la banane, il y en a au kiwi, il y en a même au cookie. On donne ce qu'on veut, c'est pour soutenir le mouvement des gens différents, rigolos, qui détestent Hidalgo.
Oh la vache, elles étaient bonnes ces barbes à papa, je me suis régalé, j'en ai bouffé 17. Une fois m'être sucé les doigts, j'ai repris la route. Ma réserve de Ricard épuisée, elle aussi, j'avais attaqué mon cubi de Malibu tout en écoutant l'excellent Clodo Capéo. Ah bah lui, c'était pas mort bourré, c'est insupportable. Ah, bref, je m'éclatais sur la route quand sorti de nulle part. Oh là là là, oh le con, j'ai failli me le faire cet abruti de camion.
Approchez. Venez tenter votre chance au camion stand de tir. Au stand de tir du maréchal, pas de triche, c'est génial. On tire pas sur des cibles, on tire sur des employés de la mairie de Paris. Allez, on approche, on s'amuse et on donne ce qu'on veut. C'est pour soutenir les forains qui en ont plein le dos de la mairie d'Algo.
Bordel, c'était trop fort le stand de tir sur cible vivante. Sans forcer, j'ai tué 3 personnes, un balayeur et 2 crétins en vélib. Quelle bonne idée cette attraction. Encore tout excité par mes performances, je poursuis ma route. J'étais bien, bon Dieu, mais bien, tellement bien que je conduisais maintenant à poil, les fenêtres ouvertes, tout en buvant à la paille mon tonneau de schnaps. Et moi, quand je bois du schnaps, j'écoute de la grande musique. Oh, oh, ce que c'est bon, oh là 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 là. Ça me donne envie de devenir nationaliste autrichien. Nom de Dieu, voilà. Et pas le temps de savourer que ça recommence. Mais c'est quoi ce machin? C'est même pas un vrai camion.
Venez, les enfants. N'ayez pas peur, entrez dans ma camionnette. Elle est belle, elle est confortable, ma camionnette. Une camionnette qui fait train fantôme, auto-tamponneuse, gravite, sauna, backroom, massage, épilation et pomme d'amour. Approchez, et donnez ce que vous voulez. C'est pour soutenir la colère des forains. Oh oui, soutenez les forains. Les forains, ces hommes forts, ces hommes musclés, ces hommes puissants, le torse plein de cambouis, ces hommes qui dressent des mâts rigides, ces hommes qui montent des chapiteaux et des manèges à main nue avant de les démonter un grand coup de gourdin. Oui, donnez tout ce que vous avez pour les forains.
Ben, je vais vous...
C'est quoi, les forains?
Oui, les forains. Oh, les forains.
Ça sortit de loin.
Même lui, il s'est surpris.
Ah, ouais.
Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai eu un petit peu peur. Je n'ai pas été dans la camionnette du gars. Trop d'activité. J'avais peur de vomir mon schnaps. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Mais attention, je vous rassure, nous serons au rendez-vous lundi dès 11h avec une amie de la famille, Alexandra Lamy. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes, une émission qui, malheureusement, n'a pas de compte caché dans les paradis fiscaux.